Bonsoir à tous, Didier Deplège qui présente cette émission. Thierry Messant a accepté notre invitation. C'est donc l'effroyable émission pour plusieurs heures. Et c'est Antoine Marette qui va le faire parler. Est-ce le soir de l'aveu, il y a eu effectivement un Boeing contre le Pentagone ou bien non? Thierry Messant persiste et signe, il n'y a pas eu de Boeing contre le Pentagone. Voilà le thème de l'émission. Ici et maintenant, 95.2, Antoine Marette, merci d'être là.
Bonsoir Didier, bonsoir à tous.
Je propose que Thierry Messant, en guise de point de départ, nous interprète en quelque sorte, réactualiser s'il le faut, la conférence qu'il a donnée en mai de cette année, devant la Ligue arabe, parce que dans son livre, où elle est reproduite en annexe, elle situe vraiment bien les enjeux. Mm-hmm. Et Thierry, voilà, bonsoir, je te propose de commencer ainsi ce résumé avec cette conférence devant la Ligue arabe.
Bonsoir. Dès les premières minutes qui suivirent le premier attentat contre le World Trade Center, des officiels ont suggéré à la presse que le commanditaire en était Oussama Ben Laden, le paradigme du fanatisme oriental. Peu après, le tout nouveau directeur du FBI, Robert Mueller, a nommément accusé 19 kamikazes et a requis tous les moyens de son agence et des services de renseignement pour traquer leurs complices. Le FBI n'a donc jamais procédé à une enquête, mais a coordonné une chasse à l'homme qui a pris aux yeux du public américain l'allure d'une chasse à l'arabe. Au point que des excités ont agressé, voire tué des arabes qu'ils considéraient naïvement comme collectivement responsables des attentats. Il n'y a pas eu non plus d'enquête du Congrès. Celui-ci a renoncé à exercer sa fonction constitutionnelle à la demande de la Maison-Blanche, prétendument pour ne pas porter atteinte à la sécurité nationale. Et vous savez que, depuis quelques jours, on a annoncé la constitution d'une commission d'enquête sur les faillites des services de renseignement, mais absolument pas sur les événements du 11 septembre. Il n'y a pas eu non plus d'enquête de la presse. Celle-ci a été convoquée à la Maison-Blanche et sommée de s'abstenir de toute investigation pour ne pas nuire à la sécurité nationale. Il n'y a pas eu non plus d'enquête des avocats, comme ça se fait d'habitude aux États-Unis dans le cadre de tous les procès civils ou pénaux. Pour la simple et bonne raison que on a remis 1,65 million de dollars à chaque famille de victimes pour l'indemniser, mais en exigeant d'elle qu'elle renonce aux poursuites. Si nous analysons les attentats du 11 septembre, nous remarquons d'abord qu'ils sont plus vastes que ne le reconnaît la version officielle. Premièrement, nous ne connaissons que l'implication de 4 avions, alors qu'il fut un moment question de 11 avions. Au demeurant, l'examen des délits d'initiés commis en marge des attentats montre des spéculations à la baisse sur 3 compagnies d'aviation, American Airlines, United Airlines et la KLM Royal Dutch Airlines. Deuxièmement, nous n'avons pas intégré l'attentat commis à l'annexe de la Maison Blanche, ce qu'on appelle The Old Executive Office Building ou encore le bâtiment Eisenhower. Pourtant, la chaîne ABC a diffusé en direct le matin du 11 septembre des images d'un incendie ravageant les services de la présidence. Troisièmement, nous n'avons pas pris non plus la mesure de l'effondrement d'un troisième immeuble à Manhattan, indépendamment des Twin Towers. Ce troisième immeuble n'avait pas été touché par un avion. Il a pourtant lui aussi été ravagé par un incendie avant de s'effondrer à son tour, à la suite d'une cause inconnue. Ce building abritait la principale base secrète de la CIA dans le monde. L'agence y consacrait ses moyens au renseignement économique, au détriment du renseignement stratégique et aux grandes dames du lobby militaro-industriel. Si nous nous penchons sur l'attentat commis au Pentagone, nous constatons que la version officielle est un énorme mensonge. Selon le département de la Défense, un Boeing 757, dont on avait perdu la trace au-dessus de l'Ohio, aurait traversé 500 km sans être repéré. Il aurait échappé au radar civil, au radar militaire, aux avions de chasse lancés à sa poursuite, et même aux satellites de la NSA. Il serait entré dans l'espace aérien du Pentagone, et serait descendu sur la pelouse de l'héliport, il aurait rebondi sur celle-ci, aurait brisé son aile droite contre un groupe électrogène, aurait frappé la façade au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage, il se serait alors engouffré entièrement dans le bâtiment, où il se serait consumé, ne laissant d'autres restes que deux boîtes noires inutilisables, et des fragments des corps des passagers. Il est évidemment impossible qu'un Boeing 757 puisse échapper ainsi pendant 500 km à toute surveillance. Il est également impossible qu'un Boeing 757 entre dans l'espace aérien du Pentagone sans être détruit par les 5 batteries de missiles qui protègent le bâtiment. Lorsqu'on observe les photographies de la façade, prises dans les quelques minutes qui suivirent l'attentat, avant même que les pompiers civils d'Arlington n'aient eu le temps de se déployer, on n'observe aucune trace de l'aile droite en feu devant la façade, ni aucun trou dans la façade ayant permis à l'avion de s'engouffrer dans le bâtiment. Sans crainte du ridicule, le département de la Défense affirme que les réacteurs en acier trempé se seraient dématérialisés sous l'effet du choc, sans pour autant endommager la façade. L'aluminium du fuselage serait entré en combustion à plus de 2500 degrés Celsius à l'intérieur du bâtiment et se serait gazéifié, mais les corps des passagers qu'il contenait auraient si peu brûlé qu'ils auraient pu être ultérieurement identifiés grâce à leurs empreintes digitales. Répondant aux journalistes à l'occasion d'une conférence de presse au Pentagone, le chef des pompiers a indiqué qu'il ne subsistait aucun débris volumineux de l'appareil, ni morceau de fuselage, ni rien de cette sorte. Il a déclaré que ni lui, ni ses hommes ne savaient ce qu'il était advenu de l'appareil. L'étude des photographies officielles de la scène de l'attentat, prise et diffusée par le département de la Défense, montre qu'aucune partie du Pentagone ne porte de stigmate d'un impact imputable à un Boeing 757. Il faut donc se rendre à l'évidence. Il est impossible que l'attentat commis le 11 septembre au Pentagone, tuant 125 personnes, l'ait été au moyen d'un avion de ligne. La scène de l'attentat ayant été dévastée dès le lendemain par les travaux immédiatement entrepris, on ne dispose que d'éléments partiels pour reconstituer l'événement. Ces éléments convergent vers une hypothèse unique qu'il n'est pas possible de valider avec certitude. Un contrôleur aérien de Washington a témoigné avoir observé au radar l'apparition d'un engin volant à environ 800 km/h, se dirigeant initialement vers la Maison Blanche, puis opérant un virage très brutal vers le Pentagone où il se serait écrasé. Ce contrôleur a attesté que les caractéristiques du vol ne pouvaient être que celles d'un engin militaire. Plusieurs centaines de témoins ont indiqué avoir entendu un bruit strident comparable à celui d'un avion de chasse, aucunement à celui d'un avion civil. Des témoins oculaires ont indiqué avoir observé quelque chose comme un missile de croisière avec des ailes, ou encore un engin de petite taille comme un avion pouvant contenir 8 à 12 places. L'engin a pénétré dans le bâtiment sans causer de dégâts importants sur la façade. Il a traversé plusieurs anneaux du Pentagone, ouvrant dans chaque cloison qu'il traversait un trou toujours plus large. L'orifice final, de forme parfaitement circulaire, mesurait environ 2 mètres de diamètre. En traversant le premier anneau du Pentagone, l'engin a provoqué un incendie, aussi gigantesque que soudain. Des flammes immenses sont sorties du bâtiment en léchant les façades. Elles se sont retirées aussi vite, laissant derrière elles un nuage de suie noire. L'incendie s'est propagé dans une portion du premier anneau du Pentagone et dans 2 couloirs perpendiculaires. Il a été si soudain que les protections anti-incendie n'ont pas eu le temps d'être activées. Tous ces témoignages et ces observations pourraient correspondre au tir d'un missile de la dernière génération, du type AGM, muni d'une charge creuse et d'une pointe en uranium appauvri de type BLU, guidé par GPS. Ce type d'engin a l'apparence d'un petit avion civil, mais ce n'est pas un avion. Il produit un sifflement comparable à celui d'un avion de chasse, peut être guidé avec suffisamment de précision pour entrer par une fenêtre ou par une porte, perce les blindages les plus résistants et provoque, indépendamment de son effet de percement, un incendie instantané dégageant une chaleur de plus de 2000 degrés Celsius. Ce type d'engin est développé conjointement par la marine et l'armée de l'air. Il est tiré d'un avion. L'engin qui a été utilisé au Pentagone a détruit la partie du bâtiment dans laquelle le nouveau centre de commandement de la Navy était en cours d'installation. À la suite de cet attentat, le chef d'état-major de la Navy, l'amiral Verne Clark, n'a pas rejoint la salle de commandement du National Military Joint Intelligence Center, comme les autres officiers d'état-major, mais a quitté précipitamment le Pentagone. Qui pouvait donc tirer un missile de la dernière génération sur le Pentagone ? La réponse nous est apportée par les confidences d'Harry Fleischer, porte-parole de la Maison-Blanche, et de Karl Rove, secrétaire général de la Maison-Blanche, auprès de journalistes du New York Times et du Washington Post. Des confidences que les intéressés ont eux-mêmes démenties 18 jours plus tard, prétextant s'être mal exprimés sous le coup de l'émotion. Selon ses proches de George Bush, la Secret Service, c'est-à-dire le service de protection du président, a reçu au cours de la matinée un appel téléphonique des commanditaires des attentats, probablement pour poser des exigences. Pour créditer leur appel, les assaillants ont révélé les codes secrets de transmission et d'authentification de la présidence. Or, seules quelques personnes de confiance, situées au sommet de l'appareil d'État, pouvaient disposer de ces codes. Il s'ensuit qu'au moins un des commanditaires des attentats du 11 septembre est un des dirigeants civils ou militaires des États-Unis d'Amérique. Pour créditer la fable des terroristes islamistes, les autorités américaines ont imaginé des kamikazes. Bien qu'il soit possible à des personnes organisées d'introduire des armes à feu dans des avions de ligne, les kamikazes auraient utilisé comme seules armes des cutters. Ils auraient appris à piloter des Boeing 757 en quelques heures de simulateur et seraient devenus meilleurs pilotes que des professionnels. Ils auraient ainsi pu réaliser sans hésitation des manœuvres d'approche fort complexes. Le département de la justice n'a jamais expliqué comment il avait établi la liste des kamikazes. Les compagnies d'aviation ont indiqué le nombre exact de passagers dans chaque avion et des listes incomplètes de passagers ne mentionnant pas les personnes embarquées au dernier moment. En contrôlant ces listes, on observe que les noms des kamikazes n'y figurent pas et que le nombre de passagers non identifiés n'est que de 3 dans le vol 11 et de 2 dans le vol 93. Il est donc impossible que les 19 kamikazes aient tous été embarqués. Au demeurant, plusieurs des personnes mises en cause se sont depuis manifestées. Le FBI maintient pourtant que les pirates de l'air ont été identifiés sans possibilité d'erreur et la divulgation d'informations complémentaires comme les dates de naissance rendent toute homonymie improbable. À ceux qui douteraient, le FBI apporte la preuve ultime. Alors que les avions ont brûlé dans les Twin Towers et que les Twin Towers se sont effondrés, le passeport de Mohamed Atta aurait été miraculeusement retrouvé intact sur les ruines fumantes du World Trade Center. L'existence de pirates de l'air, ceux-ci ou d'autres, nous est attestée par des coups de téléphone que les passagers auraient passés à leur famille aux autorités. Malheureusement, ceux-ci ne nous sont connus que par ouï-dire et n'ont pas été publiés même lorsqu'ils auraient été enregistrés. Il n'a pas été possible de vérifier qu'ils aient été effectivement passés de tel ou tel téléphone mobile, de tel ou tel téléphone de bord. Là encore, nous sommes sommés de croire le FBI sur parole. Au demeurant, il n'est pas indispensable de disposer de pirates de l'air pour réaliser ces attentats. La technologie Global Hawk, développée par l'US Air Force et la compagnie Boeing, permet de prendre le contrôle d'un avion de ligne malgré l'équipage et de le guider à distance. Reste l'épouvantail Oussama Ben Laden. Si l'on admet qu'il fut collaborateur ou agent de la CIA durant la guerre contre les Soviétiques en Afghanistan, on tente de faire croire qu'il se serait retourné et serait devenu l'ennemi public numéro un des États-Unis. Cette fable ne résiste, elle non plus, pas à l'analyse. Ainsi, le quotidien français Le Figaro a révélé qu'en juillet dernier, là c'est en juillet 2001, Oussama Ben Laden était hospitalisé à l'hôpital américain de Dubaï, où il reçut notamment la visite du chef de poste CIA. La chaîne américaine CBS a révélé que le 10 septembre 2001, la veille des attentats, Oussama Ben Laden était sous dialyse à l'hôpital militaire de Rawalpindi, au Pakistan, sous la protection de l'armée, dont les cadres sont formés aux États-Unis. Et le grand reporter français Michel Perard, qui fut prisonnier des talibans, a raconté comment Oussama Ben Laden vivait ouvertement à Jalalabad en novembre, tandis que les USA bombardaient d'autres régions du pays. Au demeurant, peut-on croire que la plus grande armée du monde venue l'arrêter en Afghanistan n'y soit pas parvenue, tandis que le Mollah Omar aurait échappé à l'armada américaine en s'enfuyant à Mobilette? Au vu de ces éléments, il apparaît que les attentats du 11 septembre ne sont pas imputables à des terroristes étrangers issus du monde arabo-musulman, même si éventuellement certains exécutants peuvent être islamiques, mais à des terroristes américains. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, la résolution 1368 du Conseil de sécurité des Nations Unies a reconnu le droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective, conformément à la Charte de San Francisco. Et le Conseil a stipulé que le Conseil de sécurité appelle tous les États à travailler ensemble pour traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces attaques terroristes, et souligne que ceux qui portent la responsabilité d'aider, soutenir et héberger les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces actes devront rendre des comptes. Si l'on souhaite répondre à l'appel du Conseil de sécurité, appliquer cette résolution 1368 et punir les vrais coupables, le seul moyen de les identifier avec précision serait de constituer une commission d'enquête dont l'indépendance et l'objectivité soient garanties par l'ONU. Ce serait aussi le seul moyen de préserver la paix internationale. En attendant, les actions militaires extérieures des États-Unis d'Amérique sont dépourvues de fondements légitimes en droit international, qu'il s'agisse de leurs récentes actions en Afghanistan ou de leurs actions annoncées en Iran, en Irak et dans de nombreux autres pays.
Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, dans le cadre d'une émission proposée par Didier Deplège. Antoine Maret et Didier Deplège poseront des questions ce soir à Thierry Messon. Vous aurez aussi l'occasion d'en poser pour un petit peu, pour éclaircir les choses, pour arrêter justement de se poser des questions. Serez-vous convaincu après une telle émission, dans tel ou tel sens? Après, ça vous regarde. En tout cas, toi, Antoine, convaincu?
Eh bien, je verrai dans 3 heures. Après, à l'issue de cette émission, et puis vous pouvez donc intervenir. Donc c'est Alexandre à la technique et au standard qui vous accueillera à partir de à peu près minuit et demi, au 01 45 75 44 deux fois ou 45 deux fois. Donc nous invitons ce soir Thierry Messon, qui a sorti un livre dans la collection Carnot qui s'intitule Le Pentagate. Alors Thierry Messon, c'est votre deuxième livre au sujet des attentats du 11 septembre. Celui-ci se concentre essentiellement sur l'attentat du Pentagone. Qu'apporte ce livre par rapport au premier ?
Le premier, c'est un livre d'analyse politique sur les attentats et toutes les conséquences qu'ils ont sur la politique intérieure et extérieure des États-Unis. Et dans le premier livre, le premier chapitre traitait de l'attentat du Pentagone, qui était retiré de la chronologie générale, parce que je voyais dans cet attentat du Pentagone un phénomène extrêmement particulier, un mensonge de guerre colossal, mais qui, à notre grande surprise, intervient dès le matin du 11 septembre. Il s'agissait pour moi d'attirer l'attention du lecteur sur le fait que si on avait pu mentir sur quelque chose d'aussi important que ça, mais en fait, on devait s'inquiéter de tout ce qu'avait dit le gouvernement américain et regarder chaque chose très précisément. Alors, ce premier chapitre a été très critiqué, d'ailleurs lui seul. On s'est bien gardé de parler du reste du livre, alors que c'est le reste du livre qui, évidemment, avait un intérêt. Ce premier chapitre a été très critiqué, et j'ai voulu répondre aux critiques, c'est normal. En plus, moi, je continue mes investigations sur cet aspect-là comme sur bien d'autres. Et j'ai souhaité, dans un deuxième livre, montrer les éléments dont on disposait dans cette affaire du Pentagone pour lever les derniers doutes, puisque dans le premier, c'était pas le sujet. Hein, c'est encore une fois, j'avais extrait ça du déroulement général de l'enquête pour en faire un symbole. Donc là, j'ai approfondi cette question-là. Donc ce deuxième livre n'est pas politique comme le premier, c'est un livre beaucoup plus technique.
En gros, dans le premier, vous dites, c'est une supercherie, et dans le deuxième, vous dites pourquoi.
Donc c'est pas. Non, c'est pas ça. Non, pardon. Dans le premier livre, je traite encore une fois de toute l'évolution de la politique intérieure et extérieure des États-Unis. Et puis simplement dans le premier chapitre, j'évoque cette question du Pentagone. Dites pour dire cette question du Pentagone, c'est une supercherie. Mais dans le deuxième livre, j'ai voulu approfondir comment on pouvait analyser cette affaire du Pentagone, et puis aussi comment la presse avait traité de tout ça. Parce que le deuxième livre est aussi, évidemment, un réquisitoire contre la presse française, notamment, qui s'est montrée d'un aveuglement rare.
Mais on a la sensation, dans ce deuxième livre, que vous reculez un peu par rapport au premier.
Ah bon, vous trouvez, vous ?
Par rapport, on va avoir l'occasion de développer ça.
Sur quel sujet ?
Mais sur des sujets, par exemple, si mon souvenir est bon, dans le premier, vous parliez d'une bombe.
Ah non, dans le
au Pentagone.
Ah non, attendez.
Je vous avais entendu chez Ardisson parler d'une bombe.
Dans le premier livre, j'explique ce qui a été diffusé par les agences de presse à ce moment-là. Donc les agences de presse, elles ont parlé, par exemple, l'AFP a fait une dépêche annonçant qu'on venait entendre une double explosion au Pentagone, et parlant de bombe au Pentagone. C'est la dépêche de l'AFP. Par contre, je ne sais plus si c'est Reuters ou Associated Press qui a raconté que c'était un... Il y en a un qui a dit que c'était un hélicoptère piégé et l'autre qui était au sol devant le Pentagone et l'autre qui a parlé d'un camion qui avait explosé. Donc il y avait déjà trois versions au départ. Moi, j'ai relaté ces trois versions dans le livre et je n'ai absolument pas pris position sur le fond parce que ça n'était pas le sujet du premier livre. J'ai reculé nulle part.
Mais par rapport au deuxième livre, oui. Par rapport au premier livre, dans le deuxième, vous vous concentrez essentiellement sur le Pentagate. Sur le Pentagone, pardon.
Je vais plus loin dans la liste. Je continue mon enquête. Donc, ce que je n'avais pas fait pour le premier livre, et on m'a reproché d'avoir lancé cette information sans aller jusqu'au bout de l'enquête, etc. Ben, j'ai été jusqu'au bout de l'enquête pour non seulement... Dans le premier livre, j'ai expliqué que c'était une supercherie, la version officielle de l'attentat du Pentagone. Et dans le deuxième livre, j'essaie de voir ce qui s'est réellement passé.
Alors messieurs, le décor est planté, on va pouvoir débattre lors de cette nuit sur Radio Ici et Maintenant. Je vous propose une toute petite pause musicale, on se retrouve dans un instant. Thierry Messant est notre invité ce soir, il est interviewé par Antoine Maret et Didier Deplaye. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2 et pour faire suivre cette émission à des amis ou à des personnes qui sont en dehors d'un rayon de 100 km de Paris environ, vous allez sur internet et vous tapez ici-et-maintenant.com. So if you know, you know. So this will be interval. It could be so cute. Do you know they just don't make clothes anymore for people who wear glasses? You know, pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose your grip. New York Phonics Center is the answer to your problems. Contactless lenses and the new soft lenses. The center gives you 30 days and see if you like them, and if you like them, and if you don't, they could refund your money. So this could be like into a satchel in the sky. A batch of cookies was on the way. These are the days, my friends. So this could be into a satchel. It could get a well rug for these workers. Do you know they just don't make clothes anymore for people who wear glasses? There's no pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose or break.
Will New York Aphonic Center be the answer to your problem? Contact Miss Lenses. Would it get some wind for the sailboat? And it could get for these workers. So these are the days, my friends. And these are the days, my friends. Do you know they just don't wear clothes anymore for people who wear glasses? There are no pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose or break. Will New York Aphonic Center has the answer to your problem. Contact Miss Lenses and the new soft lenses. The center gives you 30 days and see if you like them, and if you like them, and if you don't, they could refund your money except for the examination fee. So if you're tired of glasses, go to New York Aphonic Center, 11 West 32nd Street and 5th Avenue. For sight with no hassle, please call BR95555. Will it get some wind for the sailboat? And it could get those for it is. It could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frankie. It could be very fresh and clean. It could be. It could get some gasoline shortest ones. All these are the days, my friends, and these are the days, my friends. Look, batch, catch, hatch, latch, match, patch, snatch, scratch, swearing to God, Frankie Valley, who loves you, the Four Seasons. Would it get some wind for the sailboat? And it could get those for it is. It could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frankie. It could be very fresh and clean. It could be. It could get some gasoline shortest ones. Zigzag, all these are the days, my friends, and these are the days, my friends. Which ones are the ones for? So if you know, so if you take your watch off, there is a to lose a break. These are the days, my friends, and these are the days, my friends. It could be some other, it could be on your own, it could be where of all, the way on this one. So if you know, you know, so this will be into where it could be, so look here. Do you know they just don't wear clothes anymore for people who wear glasses? There's no pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose or break. New York Aphonic Center has the answer to your problem. Contact the lenses and the new soft lenses. The center gives you 30 days and see if you like them. And if you like them, and if you don't, they could refund your money except for the examination fee.
Radio Ici et Maintenant, 95.2, nous sommes pour la soirée avec Thierry Messant. Donc on a parlé de votre premier livre. Tout de suite, on commence par une comparaison entre le premier et le deuxième. Dans le premier, à aucun moment, il n'était question d'un missile.
Oui.
Et maintenant, c'est l'hypothèse que vous privilégiez. Avant, j'avais quand même le sentiment que vous privilégiez l'hypothèse soit de l'hélicoptère qui explose, soit de la bombe.
Bah, vous avez tort d'avoir ce sentiment, parce qu'avant, je n'avais strictement pris aucune position sur ce qui s'était passé au Pentagone. Vous pouvez lire vraiment en détail ce que j'ai écrit. Il n'y a aucune position là-dessus. Par contre, j'ai relaté...
Vous disiez, c'était d'ailleurs le bandeau rouge du livre, aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Donc, vous preniez position quand même.
Non, mais d'accord, mais attendez. Je prenais position par rapport à la version officielle en expliquant, est-ce que je maintiens, qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Par contre, dans le premier livre, je ne prenais
sous-entendu, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben justement, c'est une question que moi, je n'ai pas traitée dans le premier livre. Ça n'était pas du tout mon problème. Dans le premier livre, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que la version officielle, c'était un mensonge. Et qu'est-ce que ça impliquait qu'on ait menti dès le départ? Bon. Alors, mon enquête continue. J'ai un certain nombre d'éléments nouveaux, notamment le fait que le jour de la parution de mon livre, vous savez peut-être que le Pentagone, via CNN, a diffusé des images d'une caméra de surveillance d'un parking du Pentagone montrant l'attentat. Hein. Et donc ça, c'est des éléments nouveaux. Bon.
Il y a aussi les témoignages dans le premier livre que vous n'abordiez pas et que vous abordez dans ce deuxième livre, qui parlent tous d'un aéronef.
Oui, mais encore une fois...
Ça ne vous a pas obligé un peu à retravailler votre position en se disant...
Mais alors, absolument pas.
Finalement, c'est pas une bombe, c'est forcément un objet qui vole, donc on va dire que ce va être un missile.
Mais ça, c'est absolument pas passé comme ça. Non, dès le départ, l'hypothèse du missile était pour moi la plus importante. Dès le premier jour. Bon. Pour une simple et bonne raison, c'est que dès le départ, quand on a fait les analyses, des photographies du Pentagone, on a fait des comparaisons avec les photographies d'immeubles qui avaient été l'objet de tirs de missiles sur des différents théâtres d'opération au Liban et en Yougoslavie. Bon. Donc dès le départ, l'analogie, elle sautait aux yeux. Bon. Ceci dit, ça n'était pas mon problème dans le premier livre. Et si vous voulez, moi je suis un peu... Je vais vous bousculer un peu, mais... pour moi, cette affaire, elle est extrêmement secondaire par rapport à tout le reste. Extrêmement secondaire. Vous savez, savoir si un missile ou un Boeing a touché le Pentagone, par rapport à la compréhension des événements, ça ne change pas grand-chose.
Oui, mais en même temps, c'était, disons-le, vous-même, c'était le produit d'appel de votre premier livre, c'était le bandeau rouge. Ce n'est pas, alors ne dites pas que c'est secondaire, puisque c'était ce qui faisait vendre votre premier livre.
Non, attendez. C'est secondaire par rapport à la question de la responsabilité des attentats. Puisque ce soit un Boeing ou que ce soit un missile, pour toucher le Pentagone, il faut des complicités dans l'armée. Dans les deux cas, c'est le même problème. Bon. Par contre, c'est très important sur la question de la vérité et de la propagande, parce qu'être capable de faire cette présentation en racontant que c'est un Boeing détourné par des islamistes venus d'Afghanistan avec des cutters à la main, alors que c'est un missile qui est tiré par l'armée américaine, là, ça c'est très important sur le plan de la vérité et de la propagande. Hein? Mais sur le plan qui était de l'enquête sur qui est le commanditaire des attentats, c'est extrêmement secondaire.
Alors, la thèse du World Trade Center,
je vais terminer ce que je dis parce que là, oui. Vous sautez comme ça allègrement, comme si c'est, je viens de vous dire un truc, vous réagissez pas, j'espère que vous.
Non, mais je vous ai écouté, vous avez répondu à la question.
Non, mais sur la question, je vous dis,
moi de réagir.
Le fait de toucher le Pentagone, sur le Pentagone, vous avez un système de défense anti-aérien très sophistiqué. Il a été mis au point, il y a quelques années, après une affaire tout à fait ridicule où un petit Cessna avait atterri sur la pelouse de la Maison Blanche. Donc après ça, on a conçu un système de défense anti-aérien décisif pour un espace sécurisé qui comprend la Maison Blanche et le Pentagone. Alors évidemment, il y a plusieurs barrières de protection, mais dans la défense ultime, il y a 5 batteries antimissiles sur les toits du Pentagone. Et ce sont des batteries dont les Américains étaient suffisamment fiers pour les présenter aux autres étrangers, aux délégations d'armées différentes qui venaient les voir. Manifestement aussi, c'est un moyen de vendre du matériel, hein, de montrer quand on a des beaux joujoux, comme ça. Or, le 11 septembre, ces systèmes de contre-missiles n'ont pas été activés. Alors, il n'y a que 2 solutions pour ça. Soit vous avez des généraux qui ont débranché chacune des 5 batteries. Soit deuxième solution, l'objet qui est entré dans cet espace aérien sécurisé est un objet de l'armée américaine qui était capable d'émettre un code de reconnaissance ami de l'armée américaine qui inhibe le système de défense.
Troisième solution, ça n'a pas fonctionné.
Attendez, les 5 systèmes qui n'ont pas fonctionné, mais attendez, là vous riez. Non, on pourrait concevoir que les missiles ne touchent pas leur cible, vous voyez, ils soient tirés, ils touchent pas leur cible. Mais là, ils n'ont pas été tirés. Les 5 systèmes, vous allez dire, les 5 systèmes sont tombés en panne au même moment, ben écoutez...
Mais en même temps, la situation était totalement inédite. Jamais un avion de ligne n'avait tenté de se scratcher sur un bâtiment de ce type. Donc, on peut imaginer que dans la confusion, l'hésitation, les choses...
Est-ce que vous croyez que c'était un système avec une décision humaine, quelqu'un qui appuie sur le bouton? Non, c'est un système automatique, ça va à une vitesse extraordinaire, tout ça. Vous savez que ces contre-missiles, ils vont à 3 fois et demi la vitesse du son. Il n'y a personne pour réfléchir quand c'est comme ça. C'est des systèmes automatiques. Or, ces systèmes ont été stoppés. Pourquoi?
Peut-être aussi qu'on a, enfin c'est une autre hypothèse, on a estimé que faire exploser un avion sur Washington, puisque c'est ça, hein, batterie anti-missile, aurait eu des conséquences fâcheuses, et peut-être qu'on n'a pas osé le faire, je ne sais pas.
Mais à ce moment-là, on n'installe pas des batteries sur le toit si on ne doit jamais s'en servir.
Oui, mais s'en servir contre un avion de ligne, c'est inédit tout de même.
Attendez, vous avez des procédures officielles.
Mais tout ça se passe très vite aussi.
Non, pardon. Vous avez une procédure officielle de l'armée américaine qui est prévue pour cette situation. Cette procédure est consultable sur notre site internet. Hein. D'ailleurs, tous les documents dont je parlerai aujourd'hui, tous les documents officiels, nous les archivons sur notre site internet effroyable-imposture.net. Donc, vous pouvez regarder dessus. La section les documents du département de la défense, vous aurez la procédure qui est prévue dans ce type de situation. Et évidemment, la procédure prévoit la destruction de l'aéronef.
Alors nous allons reparler de tout cela, mais tout d'abord nous avons en ligne avec nous Pierre-Henri Bunel. Pierre-Henri Bunel, vous allez nous le présenter puisqu'il est dans votre livre, il fait partie de ceux qui ont accrédité votre thèse.
Non, mais il n'était pas là pour accréditer ma thèse, il est là pour présenter une expertise et sa qualité d'expert est largement connue et reconnue. Enfin, on va peut-être lui donner la parole, il va lui-même donner son cursus si alors, ça vous intéresse. Mais...
Donc, Pierre-Henri Bunel donc, est un Syrien, ancien officier d'artillerie, dont, et là je cite votre livre, l'expertise est reconnue dans les domaines effets des explosifs sur les hommes et les bâtiments, armes d'artillerie, lutte anti-incendie, épaves et restes d'avions détruits.
Et vous devez compléter sa biographie, il faut aller jusqu'au bout.
Il a notamment participé à la guerre du Golfe aux côtés des généraux Schwarzkopf et Roquejoffre. Et j'ai envie de rajouter aussi qu'il a été également, lors de la guerre du Kosovo, condamné à 9 ans de prison pour espionnage.
9 ans de prison ?
Oui, dont une partie avec sursis. Bonsoir Pierre-Henri Bunel.
Écoutez, il est là au bout du fil.
Il va nous répondre.
Vous savez, si c'est un grand espion, c'est étonnant qu'il soit au bout du fil. Hein.
Non, alors je n'ai jamais été condamné à 9 ans de prison. J'ai été condamné à 5 ans avec sursis, et on m'a laissé mes droits civiques et civils, j'ai voté, j'ai ma retraite, autant dire que cette affaire n'est pas tout à fait finie, bien que judiciairement parlant elle soit finie, mais il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été racontées là-dessus, donc rassurez-vous, il y a un livre en préparation de façon à tout expliquer.
Donc je voulais simplement...
dans cette affaire du Kosovo... la France a mené des politiques complexes que si un officier qui était quand même un officier de liaison à l'OTAN avait réellement failli, il aurait été gravement sanctionné, mais que s'il avait agi dans l'intérêt du pays, on comprend qu'à ce moment-là la France est tenue à ce qu'il soit jugé par un tribunal français et non pas par les États-Unis, et que cette condamnation soit purement symbolique, sinon diplomatique.
Alors, je vais juste, pour vous présenter, lire la phrase d'un article de Hervé Kempf du Monde, qui précise, là je le lis, Pierre-Henri Bunel a été condamné à 5 ans de détention, dont 3 ans avec sursis, pour avoir transmis en 98 les plans des frappes de l'OTAN à un colonel serbe en pleine guerre du Kosovo. Alors Pierre-Henri Bunel répondait à ce
alors, d'abord...
Attendez un instant, Moi, je pense qu'aujourd'hui...
Monsieur Bunel va répondre.
Attendez, s'il vous plaît.
Je peux répondre très rapidement.
Aujourd'hui, on discute de la question des attentats du 11 septembre. Et vous amenez le débat sur tout à fait autre chose. Moi, je veux bien qu'on en discute.
Très rapidement.
Non, mais je tiens à souligner quand même que... il y a un procédé que l'on a vu se développer dans la presse française au cours des derniers mois, qui est un procédé dilatoire qui consiste à fuir les vraies questions en essayant d'occuper l'esprit avec des sujets qui n'en sont pas. Encore une fois, si Pierre-Henri Bunel était responsable de ce dont on l'accuse dans cette presse, il ne serait pas en liberté aujourd'hui.
Alors, répondez à cela, Pierre-Henri Bunel.
Écoutez, c'est très simple. D'abord, Hervé Kempf n'en est pas à une approximation près. Il a prétendu que j'avais donné les plans de frappe de l'OTAN, je ne l'ai pas fait. Que c'était en pleine guerre du Kosovo, c'est faux, c'était bien avant. Donc, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Kempf, une fois de plus, a été extrêmement approximatif. Mais je ne crois pas que ce soit le sujet de ce soir.
Non, mais c'était
maintenant,
juste...
Maintenant, si vous tenez à ce que je vous dise un point déterminant, d'ailleurs, dans ma défense aussi, d'ailleurs, le 5 novembre 1998, le ministre de la Défense, M. Richard, a dit au Sénat, et pas à la presse, au Sénat, en d'autres circonstances, nous aurions réglé cette affaire en famille. Mais le coup politique, dans les circonstances actuelles, aurait été trop fort. Voilà. Donc c'est une affaire qui est politique. J'ai été détenu, c'est normal. Ça fait partie des risques d'immunité d'officier de renseignement. j'ai été sacrifié, j'ai servi de fusible, je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier, et c'est une affaire politique. Maintenant, j'aimerais bien que nous soyons, que nous restions sur le sujet de ce soir. L'ordre du jour de la réunion, me semble-t-il, est l'affaire du 11 septembre et en particulier du Pentagone.
Absolument, c'était juste une introduction pour savoir un peu qui vous êtes. Vous intervenez dans le livre donc de Thierry Messant, Le Pentagate, et vous apportez en fait des éléments très intimidant hein, sur le plan scientifique. Quand on n'a pas de connaissances sur le sujet, il est très difficile de démontrer le contraire.
Mais notez bien que les gens qui ont aussi des connaissances n'ont pas démontré le contraire.
Alors
personne
ça,
ne démontrait le contraire.
On en reparlera. Alors sur l'effet d'une charge creuse, c'est le titre de votre chapitre.
Oui.
Alors exposez-nous rapidement la nature de l'explosion qui a eu lieu au Pentagone le 11 septembre 2001.
Alors, la première des choses, c'est moi qui a attiré mon attention en regardant les dégâts sur le Pentagone, ce que j'en voyais, c'est-à-dire la façade, c'est que, d'abord, il n'y a pas de traces de fumée d'hydrocarbures. Il y a des traces de fumée brune qui correspondent tout à fait aux résidus de combustion des explosifs à haute densité et à haut rendement. Ensuite, le tracé du nombre de chocs, le tracé du feu ou disons de l'énergie correspond à celui du nombre de chocs, et ça se voit très bien en examinant les fenêtres. Les fenêtres sont assez peu abîmées et soufflées de l'intérieur vers l'extérieur. Elles ne sont pas fondues comme elles l'auraient été avec 3000 degrés de haute température pendant plusieurs semaines, comme l'a dit Serge Roche. Elles ont été poussées de l'intérieur et uniquement au début des couloirs, le temps que l'onde de choc prenne sa direction. Ensuite, ce qui est intéressant en regardant une photo aérienne basse oblique, c'est de voir que cette source de chaleur s'est déplacée dans les couloirs sur une certaine profondeur, sur une certaine longueur. Alors ce qui est très intéressant, c'est sur les photos que l'on voit de tout début de l'incendie, juste après l'impact, on ne voit rien. Juste un tout petit peu de feu à un endroit. Et une photo prise quelques secondes plus tard, on voit des incendies s'allumer sur une grande longueur de front de façade, parce que l'onde de choc, en fait, qui elle est à haute température, a porté à température d'ignition, c'est-à-dire de début d'incendie, des matières inflammables qui étaient dans les couloirs. On n'a absolument pas l'expansion d'une flamme d'hydrocarbures comme on le voit sur les immeubles du World Trade Center. Alors ça, voilà, la première chose qui m'est frappée, parce que je n'avais pas d'autre documentation, c'était ça. La nature, l'aspect des fumées, la nature des dégâts tels qu'on les observe. Et puis, il y avait un trou difficile à apprécier parce que je n'avais pas d'autre élément que celui d'une explosion. Là, bon, ça, c'était, pour moi, c'était de l'explosif. La première chose à laquelle j'ai pensé, ça a été donc un camion piégé. Pourquoi ? Bien parce que je connais très bien le Pentagone. Parce qu'étant quand j'étais en activité, j'y suis allé souvent. Et en particulier, je me suis posé à l'héliport. Et j'ai vu mes bagages disparaître par une porte qui était à peu près à l'endroit où l'objet, ou disons l'explosion a eu lieu. Les passagers entraient par un autre endroit, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de petite tour de contrôle, on posait l'hélicoptère sur ce qu'on appelle la DZ, c'est le parking à hélicoptère, là où il y a le H, les gens à pied passaient vers la gauche de la petite cahute, et les bagages passaient vers la droite. Ils entraient par une porte, qui était aussi celle des camionnettes de livraison des traiteurs et de la blanchisserie pour les draps des gens de permanence et puis pour les nappes des salles de restauration. Donc il y avait là un accès. Donc j'ai pensé au départ à un camion piégé. Pourquoi ? Eh bien parce que le 11 septembre dans l'après-midi, ici en France dans l'après-midi, alors que j'étais chez mon éditeur pour lui porter un manuscrit, j'ai été prévenu par mon service d'information sur mon téléphone portable de ce qui était en train de se passer aux États-Unis. Et nous nous sommes mis sur l'Internet et nous avons observé les dépêches qui arrivaient. Et quelque temps donc après les explosions sur les tours du World Trade Center, nous avons des dépêches qui tombent nous disant que deux explosions ont eu lieu au Pentagone. Deux bombes ont explosé au Pentagone. Et un peu plus tard, on apprend qu'un avion est tombé sur le Pentagone. Bon, moi, ça c'est du direct. Et puis, il y a une chose qui m'a intrigué, c'est que très vite, on s'est focalisé sur New York et on n'a absolument pas parlé de Washington. On en a entendu parler, mais on ne voyait absolument pas d'image. Et quand j'ai commencé à recevoir des images de différentes sources, eh bien, ces images ne correspondaient pas du tout aux effets que ferait un avion qui s'abat sur un bâtiment. D'autant que, contrairement à ce qu'on a essayé de faire courir comme légende, je savais très bien que le bâtiment du Pentagone n'était pas un blockhaus. C'était un bâtiment avec des cadres, des pylônes verticaux en béton armé, garnis à l'intérieur de briques et d'isolants genre placo-plâtre et choses comme ça. Sauf à l'extérieur, où il y a une plaque un petit peu durcie, et les vitres sont un peu durcies, mais de façon à résister éventuellement à des balles et absolument pas à des grosses explosions.
Il est précisé que le Pentagone venait d'être réaménagé.
Non.
C'est ce que certains spécialistes disent.
Il était en cours de réaménagement, mais à l'intérieur. C'est-à-dire que ce qui était en train de se faire, parce qu'on était en train de réaménager un certain nombre de choses, une aile avait été pratiquement vidée, des travaux avaient été faits à l'intérieur, mais ça n'avait pas changé la structure, et en particulier à l'endroit de l'héliport, on n'allait pas changer la structure avec les deux couloirs intéressants qui permettaient de faire passer notamment le catering, enfin la nourriture, tous les services. Donc, en tout état de cause, on n'avait pas changé la structure extérieure du Pentagone, ça c'était clair. Et d'ailleurs, on ne l'a toujours pas changé. Quand toute l'aile qui a été reconstruite, elle a été reconstruite comme le reste. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un bâtiment qui n'est pas un blockhaus. Il existe un blockhaus au niveau du Pentagone, mais il est en sous-sol. C'est là que vous avez les war rooms. Et en plus, il y a d'autres éléments, mais je n'ai pas à en parler parce que je n'ai pas à faire état d'un certain nombre de secrets qui ne sont pas les miens. Et disons qu'il y a bien du blockhaus, mais en dessous. De même que sous la Maison Blanche, vous avez ce qu'on appelle la structure tubulaire. C'est un quelque chose en dessous qui fait que même si on frappait sur la Maison Blanche, si le président est en dessous, il ne risque rien.
Donc
au départ, si vous voulez, pour moi, d'entrée de jeu, c'est de l'explosif. Alors je n'ai pas le temps de m'y pencher tout de suite. Je commence à m'y pencher sérieusement vers le 21 ou 22 septembre, parce que à compter du 17 septembre, j'ai commencé la rédaction d'un livre que m'avait demandé mon éditeur. Ce livre s'appelle Menace d'islamiste. Et il se démarque de ces histoires du 11 septembre si c'est plus un essai de géopolitique où je suis témoin. Parce que je suis aussi un expert de relations internationales. Seulement, je reçois plusieurs indices d'alerte, dont certains me conduisent à aller voir le site du réseau Voltaire. Mais je reçois surtout au départ des photos sur Internet, sur ma boîte aux lettres, d'un camarade avec qui j'ai fait la guerre dans les Balkans, qui est un sous-officier américain d'origine française, et qui m'envoie des photos qu'il a prises lui-même. Et pour que je puisse éventuellement m'en servir, il m'envoie par la poste, il m'envoie les épreuves argentiques. Donc comme ça, là, on peut pas. Si vous voulez, on est sûr qu'il n'y a pas de bidonnage. Et en fait, je n'ai pas eu besoin de m'en servir, puisque nous avons utilisé, chaque fois que nous en avons eu besoin, les photos mises sur le net par les Américains eux-mêmes. Et quel est l'intérêt de faire ça? C'est que si les photos que nous utilisons et que nous envoient les Américains nous permettent d'infirmer la thèse des Américains, c'est qu'ils ne les ont pas bidonnées. Ou alors s'ils les ont bidonnées, ils les ont bidonnées bêtement pour nous dire la vérité. Je crois que toute une partie du système américain dit la vérité. Toute une partie du système américain dit la vérité ou montre la vérité de façon à ce qu'on puisse, nous, déduire les mensonges gouvernementaux. La situation aux États-Unis est extrêmement difficile, extrêmement grave, pour des tas de raisons. Et nous avons, je pense que Thierry Messant pourrait le confirmer de son côté, mais moi en tout cas du mien, nous avons beaucoup d'informations qui nous viennent parce que nous pouvons parler et que les Américains ne peuvent plus.
Donc en fait, vous appuyez la théorie de Thierry Meyssan avec votre expérience et votre connaissance.
Vous parlez de quelle théorie? J'appuie le fait qu'il n'y a pas eu d'avion sur le Pentagone.
Voilà, c'est ça la théorie.
Alors maintenant, en allant plus loin et avec plus de documentation, c'est-à-dire une fois que je suis sorti de prison, parce que tant que je suis en prison, j'ai pas Internet, je peux à ce moment-là reconstituer beaucoup mieux, parce que j'ai beaucoup plus de photos, dont beaucoup me viennent d'ailleurs du réseau Voltaire, puisqu'on travaille en liaison avec Thierry Meyssan, on s'est mis d'accord pour coopérer sur ce livre, le Pentagate. J'ai suivi, moi, depuis ma prison, tous les démêlés. Hein, quand l'effroyable imposture est sortie, j'ai vu toute la mauvaise foi d'un certain nombre d'experts. C'est pas la peine d'y revenir, parce que c'est pas la peine de leur faire de la publicité, mais enfin, il y avait de quoi se taper le derrière dans les palais Tuvier. Et donc...
Il y avait pas mal d'experts tout de même qui allaient dans le même sens, qui étaient... La plupart des experts sont plutôt contre cette théorie de Thierry Meyssan.
Oui, mais alors, attendez, quand vous avez un expert comme Serge Roche...
Moi, j'attends qu'on me cite le nom d'un expert qui soit quelqu'un exerçant des responsabilités aujourd'hui dans ce domaine de l'expertise et qui se soit prononcé contre mon travail. J'attends qu'on m'en donne un.
Oui, parce que les experts que nous avons vus à la télévision ont été des experts qui ont été appelés de façon à porter la contradiction à Thierry.
Oui, et puis, les seuls qui ont porté la contradiction sont des gens qui n'exercent pas de responsabilité. Je veux dire, je veux un expert devant un tribunal, je veux un expert qui exerce aujourd'hui une responsabilité, qui risque quelque chose. Quoi.
Et puis, de toute façon, ces gens-là, ceux qu'on a vu intervenir sur les plateaux de télévision, étaient évidemment d'une mauvaise foi insigne. Alors moi, je m'en suis rendu compte, parce que justement, les histoires d'accidents d'avion, je connais, malheureusement, que ce soit des accidents ou que ce soit des avions abattus, mais j'en ai beaucoup discuté aussi avec des amis que j'ai, en particulier chez Airbus, dont certains sont des ingénieurs maintenant à la retraite, donc libres de parler, parce que j'avais besoin de travailler avec eux sur d'autres sujets. Mais il y a, un expert qui est extrêmement intéressant sur un plateau de télévision, ça doit être sur Canal+, si je me souviens bien, c'est un certain monsieur Grangier, qui nous dit ouvertement... Mais effectivement, quand on voit cette photo, c'est bien évident que l'avion n'est pas passé par la façade. Il n'est pas passé par la façade, il est peut-être passé par le toit. Mais après tout, quelle est l'importance? Est-ce que oui ou non les États-Unis ont été frappés le 11 septembre? Alors, c'est pas la question qu'on lui a posée. La question qu'on lui a posée, c'est est-ce que oui ou non il y a un avion qui est entré par la façade? Il nous dit non, l'avion n'est pas entré par la façade. Conclusion, déjà là, l'opinion publique, au moins française, tous les gens qui y voient Canal+, donc... aurait pu au moins se dire, ah ben à ce moment-là, c'est que le gouvernement américain nous ment. Mais moi, à la limite, c'est pas tellement mon problème. J'ai été plus loin après dans le travail. Et ce qui est extrêmement intéressant, parmi les photos qu'on peut avoir, bon, la photo du trou qui fait la couverture du livre Le Pentagate est intéressante parce qu'elle est caractéristique d'un trou terminal de la fin d'un dard de charge creuse, un dard de charge creuse qui arrive en bout de portée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une charge creuse? Parce que tout le monde parle de ça. La charge creuse, l'explosif est une matière qui envoie de l'énergie perpendiculairement à sa surface. C'est-à-dire que si on creuse une charge d'explosif, ça fait comme un phare, une ampoule avec un réflecteur, un phare de voiture. Ça dirige le jet de lumière. Eh bien, l'énergie d'une explosion, c'est comme une espèce de jet de lumière. D'ailleurs, il y en a un. Et ce dard, ce trou rond avec une espèce de petite tache noire au-dessus, sur le mur, c'est caractéristique d'un dard de charge creuse qui arrive en fin de portée, qui a entraîné beaucoup de débris et les a chauffés, et ces débris montent, la chaleur de ces débris monte et noircit un peu le mur. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est aussi la série de 4 photos qui ont été publiées, je crois, par CNN. Enfin, c'est ces 4 photos qui ont été prises par une caméra de sécurité. On ne nous en montre que 4. On ne nous montre pas la photo moins 1, 0. On nous montre la photo 1, 2, 3, 4. Or, la moins 1 et la 0 existent et je les ai. Mais prenons celles qui ont été publiées. Celles qui ont été publiées sont très intéressantes parce que on voit sur la première une espèce de nuage blanc avec un petit peu de rouge. La deuxième, on voit du rouge. Et puis le rouge se déploie. Bon, ce qui est intéressant, c'est la première et la deuxième. Ce nuage blanc, correspond à la compression de l'eau qui se met sous forme d'une vapeur blanche compression de l'eau des molécules d'air sous le déplacement extrêmement rapide des molécules d'air poussées par l'explosion d'un explosif à très haute densité. Alors ça dure très peu de temps, c'est 1 à 2 centièmes de seconde. C'est-à-dire que au moment où l'explosion part du noyau de la charge creuse, car la charge creuse envoie un dard vers l'avant, mais tout autour envoie quand même de l'explosion, eh bien au moment de cette explosion, il y a un tampon d'air qui se comprime et l'eau qui est dedans se concentre et ça fait un nuage blanc. Juste après, à peu près un centième, peut-être même un demi-centième de seconde après, ça s'est volatilisé, ça a disparu sous la montée de température. Et à ce moment-là, on voit une flamme, et s'il n'y a absolument aucun obstacle, cette flamme est d'un jaune pâle, jaune-vert très pâle. S'il y a le moindre obstacle, ce qui est le cas quand un missile est entré dans un bâtiment, et que la flamme d'explosion a déjà poussé des morceaux de mur, des morceaux de toit. À ce moment-là, elle devient rouge, un rouge orangé. Et cette explosion-là, qui est extrêmement intéressante à analyser, est totalement différente de celle qu'on peut voir sur le World Trade Center quand on voit arriver les avions.
Alors là-dessus, je voudrais vous couper et vous apporter quand même une petite contradiction, parce que dans le livre de Thierry Messon, et dans le chapitre qui correspond à vos déclarations, Pierre-Henri Bunel, on voit deux photos, celle avec l'explosion du World Trade Center, avec effectivement une flamme jaune, qui correspond à la couleur du kérosène, comme vous l'avez dit, en fusion, s'enflamme, on est bien d'accord, en combustion, et une photo en haut, qui correspond à l'attentat au Pentagone, où on voit effectivement une flamme orangée. Alors, moi je voulais simplement vous apporter deux remarques là-dessus, parce que j'ai revisionné chez moi les images des attentats du 11 septembre, donc ceux de la tour, et là, en fait, l'image de la deuxième photo correspond à peu près à 20 secondes après le deuxième attentat. C'est-à-dire après que le deuxième avion ait transpercé la deuxième tour. Et ce qu'on constate dans les images, c'est que les 10 premières secondes après que l'avion ait percuté la deuxième tour, il y a d'abord une flamme orangée du même type que celle qui est sur le Pentagone, la photo au-dessus. Et effectivement, dans un deuxième temps, après 10 secondes, la flamme se propage dans le ciel et commence à devenir un peu plus jaune, comme sur la deuxième photo du World Trade Center.
Oui, alors si vous voulez, ce qui est extrêmement intéressant, la couleur est très toujours difficile à analyser entre deux photos prises à deux endroits différents avec deux appareils différents.
Avec pas le même filtre, parce que vous savez bien que, je le dis aux auditeurs, puisque je connais un peu le domaine de la vidéo, à chaque fois qu'on tourne en vidéo, on utilise d'abord une feuille blanche pour mesurer le filtre, parce que la lumière du soleil n'est pas la même que celle de la lumière artificielle, et donc la lumière artificielle est rouge, la lumière du soleil est bleue, et entre les deux il y a plein de déclinaisons possibles, donc il faut se caler sur la bonne lumière,
ce qu'on appelle la balance des blancs.
Voilà, la balance des blancs.
C'est pour ça que
la balance des blancs dans ces deux cas n'était sans doute pas faite, puisque il s'agit d'une situation rapide et extrême. Donc on peut tout à fait imaginer, et moi je l'ai constaté dans la vidéo du World Trade Center que j'ai, que la flamme est nettement moins jaune qu'elle ne l'est sur le livre. Donc question de filtre.
C'est pour ça que ce qui m'intéresse le plus n'est pas tellement la couleur de la flamme, mais la forme de la flamme.
Mais vous venez de parler de la couleur de la flamme.
Oui, j'ai parlé de la couleur.
C'était un argument tout de même.
J'ai parlé de la couleur de la flamme parce que ça saute aux yeux.
Un argument, et c'est l'argument dans le livre. Je lis ce qui a marqué dans le livre. Développement de la flamme, la couleur n'est pas celle d'une flamme d'hydrocarbure en plein air. World Trade Center, la couleur jaune témoigne d'une plus basse température de combustion. La flamme est mêlée de fumée noire et lourde. C'est celle de la combustion d'hydrocarbures dans l'air. Donc
mais
là,
vous voudriez bien.
Même...
Oui, non, mais vous devriez lire jusqu'en bas de la colonne.
Alors la
quand
flamme
même.
Descend assez lentement en avançant la façade. Au contraire, celle du Pentagone monte vivement de l'intérieur.
Voilà.
Donc, c'est la question de la forme de la flamme. Donc, il faut lire la colonne jusqu'à la fin.
Bien sûr, bien entendu. Mais la couleur est un argument de poids dans les photos que vous montrez.
Ça n'est pas l'essentiel. Alors, je vais vous dire, quand on fait de l'analyse d'explosion, nous, spécialistes, les trois quarts du temps, on travaille en noir et blanc. Parce que ça permet justement d'avoir une meilleure... on travaille sur des photos. Si on travaille sur une observation avec la caméra à très haute vitesse, on n'est pas embêté. Mais si on travaille sur des photos prises par exemple avec des caméras numériques, on est beaucoup plus ennuyé. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de travailler à ce moment-là en noir et blanc, c'est-à-dire on fiche en l'air le système de couleurs, car on voit beaucoup mieux les formes de flammes. Et la forme de flamme est déterminante. Il est évident au niveau du Pentagone que vous avez une montée de flamme à très haute vitesse. Et ce n'aurait pas été le cas s'il s'était agi d'une flamme d'hydrocarbure. Alors je vais vous dire une chose. On a prétendu que le kérosène explose. C'est une stupidité. Pour que le kérosène, qui est comme du gasoil, une espèce de d'huile lourde, pour qu'il explose, il faut qu'il soit sous pression et à haute température. Dans les ailes, il n'est jamais sous pression. Donc, quand le kérosène s'enflamme, il ne déflagre même pas. C'est-à-dire que l'accident d'avion sur le Pentagone aurait été un choc qui aurait renversé le bâtiment, qui aurait défoncé le bâtiment, qui aurait mis le feu après et qu'il aurait fallu certainement plusieurs jours pour éteindre. Ce qui n'a pas été le cas, là. Et si vous voulez, ce qui m'intéresse, moi, au départ, donc dans ces quatre photos, plus que la couleur de la flamme, c'est leur forme. C'est la forme de la flamme. Alors ça... Voilà une chose intéressante. Mais après, il y a une photo d'ensemble beaucoup plus intéressante, qui est une oblique aérienne basse, où l'on voit, plusieurs jours après, l'endroit où a eu lieu l'explosion de la charge creuse, et ensuite l'endroit où sort le dard de la charge creuse, c'est-à-dire l'endroit où est le trou qui a été pris en photo et dont la photo est mise sur le livre. Et à ce moment-là, on se rend compte de ce que ce dard de charge creuse a traversé trois lignes de bâtiment en oblique à 45 degrés sans faire aucun dégât autre que le trou de charge creuse. Alors, moi, si vous voulez, il y a une chose, malheureusement, dans mes expertises. J'ai vu ce que font les charges creuses sur des forteresses et sur des bâtiments, et en particulier pendant les guerres du Golfe. On en a tiré énormément, notamment sur le fort d'As Salman. Alors, en tant que spécialiste artilleur, je vous dis, là, il y a une charge creuse. Maintenant, il y a autre chose de très intéressant que j'ai vu, parce que je suis aussi officier de pompier. Et j'ai été officier de pompier spécialisé sur les feux d'hydrocarbures et sur les feux de munitions. Puisque, quand j'étais officier incendie de mes unités, j'avais des soutes à munitions et des soutes à hydrocarbures. J'ai donc été formé et j'ai appris à éteindre ce genre d'incendie. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on utilise très peu de mousse sur cet incendie du Pentagone. On utilise de la mousse sur un camion, là on voit les photos, on les voit en train de tirer à la mousse sur un camion, et puis sur un endroit où on ne sait pas trop ce qu'il y a eu, je pense qu'il devait y avoir un aéronef, compte tenu de ce que je connais du Pentagone, ça devait être un hélicoptère. Un hélicoptère dont on pourrait avoir retrouvé un morceau sur la pelouse par exemple. Et on regarde les pompiers qui tirent, en particulier quand M. Rumsfeld vient en visite, derrière il y a des pompiers en train de tirer de l'eau, et ils tirent de l'eau, pas de la mousse, ils tirent de l'eau sur un feu d'hydrocarbures. Alors ça peut se faire, mais à ce moment-là, dans l'eau, on met des retardants. Et là, on revient encore sur la couleur, vous allez dire que je suis décidément pas daltonien, quand l'eau contient des retardants, l'eau est orange ou bordeaux, ça dépend de la marque du retardant, mais en tout cas, elle n'est pas transparente ou blanche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en examinant l'extinction, l'intervention sur le feu par les pompiers, je me resitue, moi, dans ce que j'ai fait. Et on les voit déverser des quantités d'eau, et ça me paraît tout à fait logique, il s'agit de faire baisser la température avant de pouvoir entrer dans le bâtiment et d'attaquer les foyers résiduels allumés par l'explosion de l'explosif, et non pas du carburant, mais de l'explosif. Donc ces incendies qui sont des incendies de bâtiments normaux. C'est un feu de ville. Et l'intérêt aussi de mettre de l'eau, c'est que la charge creuse ayant fait monter brutalement en très haute température un certain nombre de matériaux lourds avec de l'eau, on fait baisser la température de ces matériaux, ce qui permet effectivement d'intervenir et d'entrer dans le bâtiment. Alors il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est d'analyser la couleur des fumées. Ah, encore les couleurs. Mais les fumées, c'est du gris ou du noir. Et ce qui est intéressant, c'est d'en voir l'aspect. Alors vous avez quelques photos où on voit de la fumée d'hydrocarbures. Ça m'a interpellé, j'ai donc cherché le maximum de photos où on voyait cette fumée d'hydrocarbures, et c'est comme ça que j'ai découvert qu'ils éteignent un camion. Mais parce que toute la majorité des fumées du Pentagone sont des fumées d'un incendie de bâtiment normal, de ville. Et quand on regarde les camions qui arrivent, eh bien je vois, moi, un canon à mousse, ou deux, et les autres, ce sont ce qu'on appelle des CCFM, camions-citernes pour feu moyen, pas pour feu léger, et ensuite, on voit arriver des camions lourds, des camions-pompes lourds. Alors, j'analyse la grosse masse des fumées, c'est de l'incendie normal. Ce serait un feu d'hydrocarbure, avec un Boeing 757-200 bourré de kéro en train de cramer, les fumées seraient complètement noires, mais noires sombres. Pas gris avec un peu de noir, pas du tout. Les fumées qu'on voit là, et là en noir et blanc ce serait pareil, c'est vraiment de le feu de ville. Et les photos sont prises au début de l'intervention, c'est tout au début, c'est pas 3 ou 4 jours après. D'ailleurs, on retrouve soi-disant les boîtes noires dans la nuit du 13 au 14 ou du 14 au 15, c'est-à-dire qu'en fait, l'incendie a été éteint extrêmement vite, sur le Pentagone, et je vous garantis que ça n'aurait pas été le cas si c'était agi d'un incendie d'avion, de kérosène d'avion, ou alors il aurait fallu mettre énormément de mousse carbonique. Or, quand on regarde les photos à la fin de l'intervention, et qu'on regarde les résidus de mousse carbonique, il n'y en a qu'à un endroit sur la pelouse, c'est autour de ce fameux camion. Alors pourquoi ce camion a-t-il brûlé? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le feu par sympathie. La charge creuse a explosé à l'intérieur du Pentagone. Alors, elle peut avoir été mise là, par un camion dans lequel on aurait mis une charge creuse. C'est-à-dire l'hypothèse que j'avais au départ. C'est idiot. La charge creuse, telle qu'elle est arrivée, par un véhicule qui a percé le mur extérieur et elle explosait à l'intérieur. C'est une charge creuse qui était armée avec une fusée qu'on appelle à court retard. Et ces fusées à court retard, il faut protéger toute la charge pour éviter qu'elle ne soit écrasée à l'impact. C'est ce qu'on fait pour les bombes anti-pistes, par exemple, ou pour les missiles anti-blocos. Et pour cela, on met à l'avant une ogive extrêmement dure et solide. En principe, elle est en alliage à base de tungstène. Et toute la charge explosive est derrière. Et pour que la fusée déclenche l'explosif, la fusée c'est ce qu'on appelle, c'est l'ensemble du détonateur, eh bien la fusée, elle peut être soit instantanée, donc au choc elle claque instantanément, soit à court retard, et sur les missiles anti-blocos, elles sont à court retard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le véhicule arrive à grande vitesse, frappe la façade, la casse, mais sur un petit trou, et ensuite, à cause du coup de frein, la charge explose, il y a eu 1 centième ou 2 centièmes de seconde, et c'est de l'intérieur du bâtiment qu'explose la flamme. Et c'est ce qu'on constate en regardant ces fameuses photos, pour lesquelles la couleur ne doit pas avoir d'importance, la flamme se développe depuis l'intérieur du bâtiment.
Pierre-Henri Bunel, je vais vous couper 2 secondes puisque nous avons un auditeur qui souhaite intervenir à l'antenne. Je voudrais juste dire aux auditeurs que vous êtes sur Radio Ici Maintenant 95.2 et que nous sommes avec Thierry Messant et Pierre-Henri Bunel au sujet de son livre Le Pentagate qui vient de paraître aux éditions Carnot. Vous pouvez nous vous parlons de photos alors comme on est à la radio bien sûr on peut pas vous les montrer sauf si vous allez sur le site internet du réseau Voltaire qui est
alors c'est réseauvoltaire.net ou effroyable-imposture.net et le livre dont nous parlons et c'est quand même important à signaler se trouve intégralement gratuitement sur ce site, vous pouvez le consulter totalement, vous pouvez même le télécharger, l'imprimer comme vous voulez, ou si vous préférez l'avoir sous la forme de livre, vous l'achetez à ce moment-là en librairie.
Alors Sébastien, merci d'avoir patienté. Bonsoir.
Ah, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Je suis un peu désolé d'interrompre Monsieur Bunel, mais bon.
Sébastien, si vous pouvez éteindre votre radio, bon, ça compris. Nous arrangerait parce que ça
alors,
fait du larcène.
Alors, on envoyait le son dans le téléphone. Mais ça m'a marché. Donc moi, j'ai lu un peu tout ça aussi, un peu comme un roman, parce qu'il y a une histoire assez extraordinaire, et puis c'est assez inquiétant. Et puis j'ai redéployé en marche arrière un des épisodes. Si on est donc dans l'hypothèse d'un missile qui est rentré dans le Pentagone et qu'on remonte en arrière, ce missile, a priori, il était quelque part dans un entrepôt où on range pas les bombes et les paquets de Mars. C'est plutôt une organisation lourde avec des registres, tout un tas de gens qui dès qu'ils vont péter un coup, ils remplissent un formulaire. Et donc tout ça, ça fait du monde. Ensuite, l'avion, faut le préparer, faut quand même y coller un petit bout de plan de vol, faut qu'il y ait quand même un mec dans une tour de contrôle qui lui dit tu peux y aller, tu peux décoller. A priori, il est peut-être pas censé savoir tous les détails des avions qui décollent de son machin, mais ça finit par faire du monde quand même tout ça. Puis il y avait un pilote. Puis est-ce qu'on va tous les tuer?
Je comprends pas la question.
Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand les quelques dizaines ou centaines de personnes qui ont participé sans le savoir à ce truc-là, qu'est-ce qui peut arriver si ces gens se mettent à parler? Probabilité on a qu'un jour ils parlent?
Non, attendez. Alors d'abord, il faut savoir que sur la manière dont on procède pour un tir de missile, les personnes qui vont tirer le missile reçoivent des coordonnées de tir, ne savent même pas où il part. Tout ça, c'est codé. Alors, bien sûr, après coup, ils comprennent ce qui s'est passé. Et encore, c'est même pas sûr. Mais enfin, s'ils sont un peu malins, ils le comprennent après coup. Le problème que vous posez, si je comprends bien, c'est la question du nombre de témoins et du nombre de complices dans ce type d'opération.
Exactement.
Et en voyant que ça nécessite beaucoup de monde, vous vous dites, ça paraît peu probable parce qu'il y a trop de gens qui sont dans la confidence. Seulement, si vous étudiez le détail des opérations, qu'il s'agisse de la version officielle ou qu'il s'agisse des hypothèses que j'ai développées, vous vous heurterez toujours à exactement les mêmes questions. Et vous êtes bien forcé d'admettre pourtant que ces événements ont eu lieu, il s'est bien passé quelque chose. Bon. Donc de toute manière, il y a plein de témoins et plein de complices. Alors moi je sais pas comment... Il se fait que rien d'important n'est filtré jusqu'à présent, mais je vous rappelle que dans l'histoire des États-Unis, il y a parfois eu des secrets très lourds où il y avait des centaines de gens impliqués et que ces secrets ont été gardés très longtemps. Par exemple, quand les États-Unis ont fait des expérimentations sur leur propre armée en matière de retombées atomiques, là. Eh bien, il y avait des centaines de personnes qui étaient concernées. Il a fallu attendre plus près de 35 ans pour que quelqu'un se mette à parler.
Pierre-Henri Bunel, peut-être, veut intervenir également.
Alors, en ce qui concerne cette affaire, je travaille personnellement aussi sur le sujet. Et je suis extrêmement inquiet du fait que il y a manifestement un complot sur ce 11 septembre. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas Thierry Messant qui l'invente. La notion de complot est endémique aux États-Unis. J'ai beaucoup travaillé à l'intérieur de la CIA et de la DIA, qui est le service de renseignement de la défense. Et il y a beaucoup de suspicions parce que depuis 1943, beaucoup d'Américains ont l'impression que depuis 1943, il y a une très très nette dérive des institutions. Alors il y a un certain nombre de scandales plus ou moins étouffés, hein, l'affaire Kennedy, Northwoods, enfin un certain nombre de choses. Et actuellement, nous sommes à une situation très très difficile intérieure pour les États-Unis. Et vous en avez un exemple avec la façon dont le président Bush a été élu. Quand même, c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire des États-Unis que le président est choisi par la Cour suprême. Alors, il y a actuellement, si on découvrait un vaste complot mêlant des gens de l'extérieur et des gens de l'intérieur, je n'en serais personnellement pas surpris. Seulement, pour que ce complot se découvre, il faudrait que tous les échelons non impliqués dans le complot soit suffisamment fort par rapport à ceux qui sont impliqués dedans. Vous savez, on a essayé de présenter une opposition entre la Chambre ovale et les services de sécurité, à tel point que le FBI et la CIA sont obligés de se défendre des accusations portées par le président. Or, qu'est-ce qu'ils disent pour se défendre? Ils disent le président était au courant, on avait donné des mémos de synthèse. Après, on a essayé de dresser la CIA contre le FBI. Or, il y a peut-être des gens vérolés dans la CIA et dans le FBI, et il y en a aussi beaucoup qui sont loyaux. Mais qui est loyal et à quoi? C'est ça qui est difficile à dire. J'ai vécu pendant la guerre des Balkans une situation telle où la CIA de Sarajevo était en guerre, cachée, mais en guerre contre l'OTAN, y compris contre les Américains de l'OTAN. C'est, rien n'est monolithique aux États-Unis, et actuellement, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles ce serait trop long de s'étendre là ce soir. C'est vrai, il y a certainement eu un pilote, il y a eu obligatoirement un pilote, d'ailleurs l'avion a vraisemblablement été vu sur les radars, dans une confusion tout à fait énorme. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que si jamais effectivement notre théorie est la vraie, ce que je crois, que c'est bien un avion qui a tiré un missile de croisière. Ce missile de croisière, compte tenu de sa puissance, est de faible portée. Je m'explique, c'est un missile de croisière qui n'est pas du tout de la taille d'un Tomahawk. Un Tomahawk aurait fait beaucoup plus de casse sur le Pentagone, à condition qu'il soit armé d'une charge anti-béton. Là, c'est un missile et je pense de croisière, pas un missile de genre laser. Ça ne peut être qu'un missile de croisière compte tenu des bruits que nous ont décrits les témoins. Donc, ce missile de croisière de faible portée, c'est-à-dire maximum 150 km, a obligatoirement été tiré d'un appareil volant dans l'espace aérien américain. Or, je n'ai pas les plans détaillés du NORAD, même s'ils sont effectivement fournis dans le livre, je ne suis pas forcément sûr qu'on les ait tous, mais d'après les plans du NORAD, il n'aurait dû y avoir en l'air à ce moment-là, comme avion de combat, que des avions de défense aérienne. Or, ces avions de défense aérienne sont normalement équipés de missiles air-air, Sidewinder, pour la majeure partie d'entre eux, et non pas de missiles de croisière. Donc c'est que sciemment, il y a un avion qui a décollé avec un missile de croisière, que cet avion, il décolle pas tout seul, et que c'est pour ça qu'il y a un souci énorme. Quand on se dit, ce qui est une hypothèse, les Américains se sont auto-frappés pour justifier une politique de réarmement et de guerre à l'extérieur, c'est inquiétant, mais à la limite, c'est pas très grave, parce qu'ils maîtrisent le système. Si, comme je le crois personnellement, les Américains ont laissé faire quelque chose, c'est-à-dire qu'ils se sont dit on va nous péter une ambassade, une base militaire, comme ça s'est déjà passé il y a quelques années, et on va en profiter pour taper sur l'Afghanistan. Ils se sont certainement dit ça. Mais s'ils n'ont pas monté eux-mêmes, c'est-à-dire si ce n'est pas l'administration au pouvoir qui a monté le coup qui les a frappés, c'est là que c'est inquiétant.
Laissez faire par qui, Pierre-Henri Bunel?
Pardon?
Laissez faire par qui?
Alors, dans la mesure où je sais de sources sûres, de la part de mes anciens collègues, que début août, tout au début août, des informations sont parties de France à destination de la CIA. Je me doute qu'avec le système Oscanucus, qu'on appelle aussi UCUSA, les Anglais ont fourni de l'information, les Allemands en ont fourni aussi. Il me paraît tout à fait vrai que Condoleezza Rice, le 6 août, a remis un mémoire de synthèse. Si, pour une raison ou pour une autre, la décision a été prise de ne pas réagir, c'est parce que les Américains se sont dit, comme c'était arrivé à Dar es Salaam et Nairobi, où ils s'étaient fait frapper deux ambassades, ils en ont profité pour tirer quelques missiles de croisière sur une usine, soi-disant faisant des armes chimiques, mais faisant en fait des trithérapies sans licence, et un autre sur un camp de Ben Laden en Afghanistan. Ils ont réagi. Après l'USS Cole, ils n'ont pas réagi tout de suite. Ils ont prémédité une frappe et une réponse. Ils se sont dit certainement, on va se faire frapper, oui, ils vont nous frapper comme d'habitude, on va perdre quelques Marines dans un coin, ou on va avoir une ambassade qui va être attaquée. Et je ne crois pas forcément que la Maison-Blanche ait été au courant de ce qu'il allait lui arriver sur les tours et sur le Pentagone. En revanche, il est bien arrivé quelque chose sur les tours et sur le Pentagone. Si on étudie la façon dont ça s'est fait, ce que j'ai fait dans Menace Islamiste, hein, j'ai pris pour argent comptant ce qu'on nous disait officiellement, deux avions sur les tours, un sur le Pentagone et un à Pittsburgh. Donc, à cette époque-là, je ne fais même pas l'effort d'examiner si c'est vrai ou non. Mais je dis, d'entrée de jeu, que contrairement à ce qu'on nous a dit, ça n'est pas une préméditation sur des années et des années, ça se fait en deux mois. Et moi, je le fais en utilisant la méthode de raisonnement tactique des états-majors de guerre arabes que j'ai appris, et à ce moment-là, je fais ça avec 39 personnes et 13 000 dollars. Bon. Je le mets dans ce livre, Menace islamiste, qui est publié chez Carnot. Alors, je ne dis pas à ce moment-là que c'est la solution, je dis que c'est une possibilité. Alors maintenant, quelle est la situation? Nous nous trouvons, et c'est ce que je crois, avec des frappes, peut-être, bon, certainement avec une participation peut-être d'islamistes, pourquoi pas, mais essentiellement faites par des Américains, mais des Américains pas sous contrôle de la Maison-Blanche. C'est là que je suis un petit peu en divergence avec Thierry Messant, mais tant qu'on n'aura pas la solution, on ne saura pas... son point de vue serait presque rassurant, je dirais. Le mien est encore plus inquiétant. Mais compte tenu de ce que j'ai vécu pendant 13 ans et demi à l'intérieur des forces américaines, je ne serais pas du tout étonné que cette affaire se montant, des échelons américains étant parfaitement au courant, en particulier, je ne citerai aucun général de division des Marines en particulier, que je connais bien, il était au courant de ce que quelque chose se montait, et bien pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un groupe de militaires américains et de diplomates américains n'en aurait pas profité pour dire « Ah bon, vous voulez qu'ils vous frappent ? Eh bien, ils vont vous frapper. » Et dans l'état actuel de la situation aux États-Unis, je ne serais pas étonné que ça se passe. Vous savez, c'est pas du Tom Clancy. C'est du vrai. Et on a bien assassiné Kennedy. Et ça n'a rien à voir avec l'assassinat de Lincoln. C'est beaucoup plus compliqué. Et la situation interne des États-Unis est telle l'année dernière, d'ailleurs c'est la même maintenant, que finalement, cette fermeture de Wall Street, ça a été, pendant 5 jours, ça a été pain béni. Alors, je ne dis pas que l'administration américaine se soit frappée comme elle s'est frappée. Mais elle a été frappée par des Américains, ça c'est clair. Alors qu'elle en est tirée partie après, oui, d'autant plus qu'elle avait l'intention, effectivement, en faisant capoter la conférence de Durban, en faisant assassiner Massoud, c'est bien qu'elle avait derrière la tête un certain nombre de choses. D'autant que si on remonte dans l'histoire des relations internationales, moi je suis remonté à partir de novembre 2000, et qu'on voit la série de réunions qui ont lieu à Heidelberg, entre des représentants de la City et des représentants financiers pakistanais qui représentaient les talibans, et ça a lieu à Heidelberg, ça aurait pu avoir lieu à Berlin, il y a eu une conférence à Berlin, cette conférence est un échec. Mais il y a une série de conférences qui ont lieu à Heidelberg, ce sont plus que des conférences, ce sont des réunions de travail. Et ces réunions de travail, c'est en fait entre techniciens des finances. Et ça n'aboutit à rien. Et c'est curieux, hein, Heidelberg. Ça vous dit rien, Heidelberg? Je vais vous dire. Heidelberg, on y a arrêté un Turc et sa copine. Vous savez, sa copine américaine qui bossait au PX de Heidelberg. Et qu'est-ce qu'il y a à Heidelberg? RSENT, le commandement des forces armées de l'armée de terre américaine en Europe. Hein? Et cette fille américaine, citoyenne américaine, bosser au PX. Le PX, c'est un point clé. Toutes les bobonnes y vont, tous les mecs y vont. On entend des tas de trucs dans un PX. Et en particulier, on voit les gens faire les courses quand ils partent en mission. Et voilà.
Pierre-Henri.
Oui.
On doit traiter chaque sujet l'un la suite de l'autre. Tu as évoqué la question de la responsabilité politique aux États-Unis. Est-ce que le gouvernement savait une partie d'opération et a été débordé par autre chose?
Alors,
je voudrais rappeler un petit élément que j'avais noté dans le premier livre, la manière dont le président Bush a lui-même raconté comment il avait vécu le début de cette journée. Donc le président Bush, dans deux conférences de presse successives, a tenu exactement les mêmes propos, donc on peut dire que c'est pas une erreur, hein, puisqu'il l'a dit deux fois, il l'a confirmé. Et il a raconté que le 11 septembre, il était dans une école élémentaire, vous savez, en Floride, où il venait prononcer un discours très important sur l'apprentissage de la lecture chez les petits-enfants. Puis avant de rentrer dans la classe où la presse l'attendait, on lui dit « Monsieur le Président, voulez-vous d'abord vous arrêter un instant dans la salle de communication sécurisée que nous avons installée à votre attention, parce que Madame Rice veut vous parler ». Donc, c'est quand le président se déplace dans un pays aussi vaste que les États-Unis, on prévoit à espace régulier des salles de communication sécurisées où il a des téléphones, des fax, des vidéos sécurisées pour communiquer avec la Maison Blanche, avec son état-major, etc. Donc là, il va dans cette petite pièce et il a ce coup de téléphone et il dit qu'à ce moment-là, il voit sur une vidéo, donc son circuit à lui, hein, il voit sur une vidéo des images du premier attentat. Il était absolument formel, hein. Il n'a pas vu les images que nous avons tous vues sur CNN de la tour après l'attentat en train de fumer, hein. Mm-hmm. Mais il voit des images de l'avion qui rentre dans la tour. Il fait même des commentaires dessus. Et puis après ça, il rentre dans la salle d'école et là, il paraît tout à fait serein, il ne fait aucune déclaration malgré cet événement qui pouvait passer pour aussi bien un accident qu'un attentat, on savait pas trop à ce moment-là. Il commence son intervention et puis ce n'est qu'au bout de quelques minutes que l'un des membres de son cabinet vient lui dire à l'oreille, Monsieur le Président, un deuxième avion a touché une deuxième tour. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que d'abord le président dit qu'il assiste à ça sur son circuit vidéo privé là, et que quand il rentre dans la salle de classe, il ne semble pas ému. C'est pas du tout un comportement habituel chez les politiciens américains. Hein.
Non, c'est vrai.
Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'en fait nous ne savons pas quelles images il a bien pu voir, puisque les seules images que nous connaissons nous du premier attentat sont les images tournées par les frères Naudet, qui n'ont été diffusées par l'agence Gamma que le soir à minuit. Donc, quelles étaient ces images? Personne n'en sait rien. C'était nécessairement des images tournées par ses services qui lui sont diffusées soit en direct, soit en très léger différé, en tout cas avec pas plus de 10 minutes de décalage. Et ça oblige à dire que donc les services américains étaient en position pour pouvoir filmer ça.
Très vraisemblablement.
Et qu'ils préviennent le président qui n'est pas gêné. Donc, on est forcé d'admettre que le président avait donné son assentiment à la première phase de cette opération. Alors, le reste, on ne sait pas. Mais la première phase de cette opération, il la suit sur son circuit vidéo interne et ça ne le gêne pas.
Oui, alors, il y a une chose. De toute façon, sur New York, il y a toute une série de mystères sur New York. J'ai l'image de cette tour qui s'effondre comme un immeuble qu'on fait imploser. Ça, en sachant comment étaient construites les tours, puisque j'avais visité le World Trade Center en attendant l'ouverture d'une réunion dans la tour numéro 7. Et donc on m'avait... Bah oui, mon cher. Alors la tour numéro 7, il y avait...
Donc la tour numéro 7, c'est la base de la CIA. Hein, ça n'a été révélé qu'après les attentats.
La tour numéro 7, alors en fait, la tour numéro 7, on savait qu'il y avait un bureau officiel de la CIA. Au rez-de-chaussée, il y avait un certain nombre de salles qui ressemblaient à des salles de réunion ou de réception. Au premier étage, il y avait une série de salles où moi j'ai pu aller. Au-dessus, pas question d'aller. Et en dessous, je savais qu'il y avait un premier sous-sol avec un parking et dessous des zones techniques. Alors...
Et au passage, tu peux nous dire quelle était la couverture de cette base de la CIA, parce qu'il paraît qu'il y avait il y avait des plaques annonçant que c'était un service fédéral et pas du tout la CIA.
Ben oui, mais de toute façon, par définition, à part à l'anglais, les bâtiments de la CIA, il y a marqué un service fédéral. Là, c'était de la météo.
C'était de la météo.
Oui, c'était service météo et connexion météo aéronautique. Mais moi, je savais très bien ce que j'allais y faire. Hein. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, parce que ça remonte à il y a longtemps, et c'était peut-être d'ailleurs pas encore complètement détourné, ce que je ne savais pas à l'époque, c'était qu'il y avait tant d'activités économiques. On aurait pu s'en douter. En revanche, ce qui nous avait intrigué, nous, parce que j'étais pas seul, c'est que c'était bien placé pour tout, écouter tout ce qui se disait dans les bâtiments des Nations Unies.
Ouais, parce que donc au départ, cette base avait été installée en même temps qu'était créé le palais de verre là pour les Nations Unies, pour espionner les délégations étrangères. Et puis sous Bill Clinton, le système a été entièrement détourné de sa fonction.
Ah, moi, j'étais avant
et a été donc utilisé pour espionner des multinationales américaines au profit d'autres multinationales américaines qui, elles, finançaient les campagnes du président. Parce qu'il faut quand même dire les choses pour que ce soit fort clair, provoquant ainsi des drames à l'intérieur de l'administration américaine et à l'intérieur de l'économie américaine.
Alors, je vais vous couper parce que je vais demander des nouvelles de Sébastien qui patiente tranquillement derrière son récepteur. Une autre question, Sébastien? Ou alors vous allez prendre
congé? Non, je vais continuer d'écouter. Mais je m'embête pas.
Je vous remercie d'être intervenu.
Oui. Et puis, je voulais juste un dernier mot par rapport à cette histoire. Quand on suit ce qui s'est passé depuis, la dernière année du mandat de Clinton, puis dans les conditions d'élection de Bush, ce qui s'est passé en septembre, tout ce qui a changé dans la vie, en tout cas civile, juridique des Américains, le fait qu'on soit là en train de parler d'une histoire quand même assez extraordinaire. Les plans qui se chauffent sur l'Irak, c'est vrai que les Américains en ce moment, quand je dis les Américains, c'est une erreur. Les politiciens ou les militaires américains dont on parle, mais pas les Américains. Donc ce petit troupeau-là est quand même extrêmement inquiétant.
Oui, vous savez, quand j'entends Monsieur Blair nous dire que Saddam Hussein risque en quelques jours ou quelques heures de mettre sur d'envoyer des armes chimiques, je suis navré, mais les Américains et les Anglais sont en mesure immédiatement de vitrifier une bonne partie de la planète. Donc, il est bien évident que derrière toutes ces histoires, il y a beaucoup d'affaires de gros sous. Vous savez, je crois qu'il y a un point extrêmement important de toutes ces histoires-là. Et ça n'a plus grand-chose à voir avec notre expertise à Thierry et à moi.
Excusez-moi, je vais juste vous quitter pour vous laisser.
Oui.
À bientôt.
À bientôt. Je crois qu'il y a un point qui peut intéresser les auditeurs. En moyenne, actuellement, par tranche de 24 heures, s'échange dans toutes les places boursières mondiales pour 1500 milliards de dollars de valeur. Dans la même tranche de 24 heures, s'échange sur Terre en biens réels, c'est-à-dire des vrais services, des biens industriels, agricoles, enfin quelque chose de concret. S'échange pour 30 milliards. Donc 1500 milliards à 30 milliards, le différentiel, ça fait un sacré paquet de monopolies. Je vous raconte pas la bulle financière. Et c'est en train de se casser la gueule un peu partout. Et ça entraîne une fuite en avant de ceux qui sont les plus impliqués là-dedans et qui sont les plus gros financiers.
Alors, si je peux en rajouter un petit coup là-dessus, je voudrais relater quelque chose qui n'est pas dans le livre, puisque je continue mon enquête, je continue à emmagasiner des informations, et j'espère que si je publie la suite de l'enquête, vous ne me direz pas que je vais en arrière, mais que vous comprendrez bien que je vais en avant dans cette affaire.
Mais c'est tout à votre honneur de reconnaître que vous avez pu vous tromper sur certains points. Hein.
Mais c'est pas ça, je continue une enquête. Oui. C'est pas, il y a un moment, je donne les éléments dont on dispose, puis j'essaye d'en trouver d'autres, et je dis au fur et à mesure ce que je découvre.
Mais on peut se tromper aussi.
Bien sûr qu'on peut se tromper.
Surtout quand on fait des thèses, et qu'on dit soi-même, moi je crois que.
Absolument, absolument. Mais bien sûr qu'on peut se tromper, mais là, en l'occurrence, il s'agit pas de, je vous ai pas raconté que je me trompais, j'ai été chercher des éléments nouveaux. Et donc là, moi je me suis beaucoup étonné, comme d'autres d'ailleurs, du fait que il y avait, par rapport à la population habituelle du World Trade Center à un moment comme celui-là, il y avait finalement très peu de victimes. Bon. Et comme beaucoup de gens, je me suis rendu compte que parmi les 2300 victimes du World Trade Center, auxquels il faut rajouter évidemment les 500 secouristes qui sont morts dans l'effondrement des tours, mais parmi les 2300 personnes qui fréquentaient les tours et qui sont mortes ce jour-là, on ne trouve aucun des dirigeants des grandes sociétés qui étaient installés dans les tours.
Mais là, c'est normal.
Alors, ça pose une petite question, et là, découverte, vous savez que dans ces tours, il y a quelques
qu'il y avait des annexes de grandes sociétés, mais il y a aussi les sièges de certaines grandes sociétés. Et il se trouve que les dirigeants de ces grandes sociétés avaient été écartés du World Trade Center, probablement pour les protéger, si vous voulez, mais d'une manière tout à fait bizarre, puisqu'ils avaient été invités à un petit déjeuner de charité qui se tenait au même moment, très loin de New York. Et bon, c'était à peu près aux mêmes heures, donc quand le petit déjeuner se terminait, les attentats avaient déjà eu lieu, l'espace aérien new-yorkais était fermé, et ces personnalités n'ont pas pu revenir sur New York, se sont trouvées bloquées là où elles assistaient à ce petit déjeuner. Alors ça se tenait dans le Nebraska, qui est franchement un trou pourri aux États-Unis, et il se trouve qu'il y a, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne s'est pas tenu dans un grand hôtel au Nebraska, comme ça se fait toujours dans ces cas-là, mais pour des raisons que j'ignore totalement, ce petit déjeuner de charité au profit d'associations locales du Nebraska s'est tenu dans la base militaire de Offutt. Donc ces personnes se trouvant bloquées sur la base militaire ont attendu toute la matinée, et en début d'après-midi, elles ont vu, oh étrange coïncidence, le président Bush arriver se réfugiant dans la base militaire de Offutt. On dirait tout ça est une coïncidence, peut-être.
Et vous tenez d'où toutes ces sources, tous ces renseignements, parce que ça n'a pas été cité par la presse.
Ah, ça n'a été cité, c'est absolument nulle part.
C'est très étonnant alors.
Oui, c'est très étonnant, oui. Mais ça, je vais le publier la prochaine fois. Je vous donnerai toutes les sources. Je vous signale, comme vous avez pu le remarquer, que dans tout ce que j'ai publié, j'ai toujours donné montagne de sources et que d'ailleurs personne n'a contesté.
Il y a des journalistes qui les contestent. Hein.
Moi, j'en ai encore vu aucun qui les contestait. Là, vous le direz. Hein.
Oui, Hervé Kempf et Jean Guinel, avec qui j'étais au téléphone, Jean Guinel du Point et Hervé Kempf du Monde.
On contestait quel point? Alors, vous me direz tout à l'heure, mais je termine mon raisonnement.
On contestait les sources de témoignages que vous donniez. Bon, alors, enfin, vous continuez, puis
vous
on
me direz tout à l'heure, mais bon. Alors, les personnalités qui se trouvaient sur la base militaire d'Offutt ont été invités à ce petit déjeuner par Monsieur Warren Buffett, qui effectivement vit dans le Nebraska. Warren Buffett, c'est le plus grand trader du monde, le plus grand spéculateur en bourse, à côté de qui George Soros passe pour un plaisantin. Et c'est aussi le propriétaire des rasoirs Gillette ou de la firme Coca-Cola. C'est aussi le propriétaire d'une des plus grandes sociétés de réassurance mondiale. C'est enfin l'actionnaire de référence de journaux comme le Washington Post ou Newsweek, qui ont oublié de lui poser des questions sur son emploi du temps le 11 septembre. Et moi, je me suis posé quand même les questions que se pose Pierre-Henri à l'instant, quoi. Sur le plan économique, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Et la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est mais la fortune de Warren Buffett, qu'est-elle devenue depuis le 11 septembre? C'est une question d'autant plus grave. Vous savez, l'économie américaine a quand même connu certaines difficultés. Et en plus, Warren Buffett est entre autres propriétaire d'une des quatre grandes sociétés de réassurance mondiale. Donc, selon toute vraisemblance, il aurait dû avoir plus de difficultés financières que d'autres. Or, dans un article paru dans la presse économique américaine il y a un peu plus de 3 semaines... il y avait un grand portrait à la gloire de Warren Buffett, et le journaliste disait vraiment cet homme est remarquable, il a anticipé tous les mouvements économiques, etc., il a su si bien gérer et tout. Et on disait au cours de l'année précédente, alors ça faisait un petit peu avant le 11 septembre si vous voulez, puisque l'article était légèrement décalé, mais disons globalement c'est la période depuis le 11 septembre, on expliquait que son patrimoine avait augmenté de 60%. Alors voilà, moi je me dis que vraiment après les événements du 11 septembre, il y a beaucoup de malheureux aux États-Unis, mais il y en a qui ont eu le nez creux, quoi.
C'est quand même des accusations très graves que vous portez là.
Oui, vous voulez que je les répète? Je peux le faire. Hein.
Non, mais c'est très très grave, parce que ça veut dire qu'il y a des hommes d'affaires du coup qui ont été complices de ce qui s'est passé.
Ce que je vous dis, c'est que j'ai été bien précis quand je me suis exprimé. Je vous ai dit que les principaux dirigeants des sociétés qui se trouvaient dans le World Trade Center ont été invités à ce petit déjeuner, à mon sens, pour les protéger,
Mais qu'évidemment, ceux qui ont lancé cette invitation, et je dis Monsieur Warren Buffett, ceux qui ont lancé cette invitation, soit avaient un don de prescience extraordinaire, soit se trouvaient dans le bien informé.
Alors nous allons marquer une pause musicale dans un instant. Je remercie Pierre Bunel d'être intervenu en direct à l'antenne. Allô ?
Oui.
Merci d'être intervenu sur l'antenne d'ici et maintenant.
Écoutez, ça a été un plaisir. De toute façon, tant qu'il s'agit de pouvoir témoigner pour la vérité, je suis toujours présent. Hein.
Eh bien, merci pour cette intervention et puis bonne soirée. Nous allons donc marquer une pause musicale. Je vous rappelle que vous êtes sur Ici et Maintenant, que nous sommes pour cette nuit avec Thierry Messant pour son livre Le Pentagète, et que vous allez pouvoir intervenir dans un instant au standard. Deux numéros de téléphone, 01 45 75 44 deux fois ou 01 45 75 45 deux fois. Nous allons maintenant parler de l'enquête en elle-même, des arguments de Thierry Messant et puis des témoignages, des fameux témoignages. À tout de suite. Which ones are the ones for? So if you know, so if you take your watch off, then is it to lose a break? These are the days, my friends, and these are the days, my friends. It could be some of that, it could be on your own, it could be where of all, the way I am this way. So if you know, you know, so this will be interval, it could be so if you. Do you know they just don't make clothes anymore for people who wear glasses? You know, pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose a break. New York Orthophonic Center has the answer to your problem. Contactless lenses and the new soft lenses. The center gives you 30 days and see if you like them, and if you like them, and if you don't, they could refund your money. So this could be like into a satchel in the sky. A batch of cookies was on the way. These are the days, my friends. So this could be into a satchel. It could get a railroad for these workers. Do you know they just don't make clothes anymore for people who wear glasses? There's no pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose or break. Well, New York Orthophonic Center is the answer to your problem. Contactless lenses. Would it get some wind for the sailboat? And it could get for these workers. So these are the days, my friends, and these are the days, my friends. Do you know they just don't make clothes anymore for people who wear glasses? There are no pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose or break. Well, New York Orthophonic Center has the answer to your problem. Contactless lenses and the new soft lenses. The center gives you 30 days and see if you like them, and if you like them, and if you don't, they could refund your money except for the examination fee. So if you're tired of glasses, go to New York Orthophonic Center, 11 West 32nd Street and 5th Avenue. For sight with no hassle, please call BR95555. Will it get some wind for the sailboat? And it could get those 4 ideas. It could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frankie. It could be very fresh and clean. It could be. It could get some gasoline shortest ones. All these are the days, my friends, and these are the days, my friends. Look. Batch, catch, hatch, latch, match, patch, snatch, scratch, swearing to God, Frankie Valley, who loves you, the Four Seasons. Would it get some wind for the sailboat? And it could get those 4 ideas. It could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frankie. It could be very fresh and clean. It could be. It could get some gasoline chartist ones. Zigzag, all these are the days, my friends, and these are the days, my friends. Which ones are the ones for? So if you know, so if you take your watch off, there is a tune as a break. These are the days, my friends, and these are the days, my friends. It could be some of that, it could be on your own, it could be where of all, the way I am this one. So if you know, you know, so this will be into where it could be, so look here. Do you know they just don't make clothes anymore for people who wear glasses? There's no pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose or break. New York Orthophonic Center has the answer to your problem. Contactless lenses and the new soft lenses. The center gives you 30 days and see if you like them. And if you like them, and if you don't, they could refund your money except for the examination fee. So this could be like into a satchel in the sky. A batch of cookies was on the way. So this could be into a satchel. It could get a railroad for the workers. Do you know they just don't make clothes anymore for people who wear glasses? There are no pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose or break. New York Orthophonic Center has the answer to your problem. Contactless lenses and the new soft lenses. Would it get some wind for the sailboat? And it could get for these workers. All these are the days, my friends, and these are the days, my friends. Do you know they just don't make any clothes for people who wear glasses? There are no pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose or break. New York Orthophonic Center has the answer to your problem. Contactless lenses and 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, dans une émission proposée par Didier Deplège. Thierry Messon est notre invité ce soir. Il nous parle du Pentaguet. Vous allez enfin pouvoir répondre à certaines de vos questions. Après, vous faites votre opinion. En tout cas, il est là. Il va répondre à vos questions à l'antenne. Il suffit d'appeler le standard 01 45 75 44 44 ou 45 45. Il est interviewé par Antoine Marette. Nous sommes ensemble jusqu'à... on verra tout à l'heure, en tout cas. Antoine, je te laisse la parole.
Oui, bonsoir, rebonsoir. Nous sommes avec Fabien Wacky au téléphone. Bonsoir.
Bonsoir Antoine.
Alors nous vous écoutons.
Bonsoir à Thierry.
Bonsoir.
Je l'avais reçu il y a quelques mois. Bonsoir à Didier Deplège qui a le courage de faire cette émission avec ce paria. Paria de la presse française.
Je suis paria de la presse française, mais je suis adulé à l'extérieur. Alors donc tout ça est relatif.
Alors justement, première question, pourquoi l'Égypte? Parce qu'il n'y a que l'Égypte qui est d'accord pour écouter cette thèse, ou le Qatar, ou...
Pourquoi l'Égypte?
Enfin, je t'ai vu en photo donnant des conférences dans des pays arabes.
Ah oui, oui, dans des pays arabes, mais pas seulement dans les pays arabes. Non, ce qui se passe depuis quelques mois, c'est que effectivement les premiers États, les premiers gouvernements à s'être intéressés à mon travail ont été des gouvernements d'États musulmans, pas seulement des États arabes, d'États à population musulmane. Alors le premier gouvernement à s'être intéressé à ce travail, c'est celui des Émirats Arabes Unis, et donc j'étais amené à faire une présentation de ce travail aux Émirats, et puis après ça sous les auspices de la Ligue arabe, enfin avec tout un décorum particulier, et après ça le Centre Zayed, qui est le think tank de la Ligue arabe, a édité une version en langue arabe de mon premier livre, et il a diffusé cet été à 5000 personnalités arabophones, enfin essentiellement des recteurs d'université, des ministres, etc. Et on a vu au cours de l'été divers gouvernements prendre position par rapport à ce livre. Donc la première déclaration vraiment très importante, ça a été celle de M. Al-Attiyah, qui est le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, qui a pris position pour que ce livre soit diffusé comme étant un élément indispensable au débat international. Et ce faisant, il engageait dans sa déclaration l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, Oman, le Koweït et les Émirats. Puis on a vu la Jordanie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, le docteur Moacher, prendre également position. On a vu la Syrie prendre position. On a vu l'Égypte dont tu parlais prendre position d'une autre manière, puisque le gouvernement égyptien a débloqué des fonds pour la diffusion du livre en Égypte. On a vu là récemment le gouvernement iranien, donc qui n'est pas un gouvernement arabe, mais qui est un gouvernement islamique, annoncer lui-même qu'il assurait la traduction et la diffusion en langue farsi. On a vu le président Musharraf, le président du Pakistan, prendre position d'une manière on ne peut plus inattendue, puisque tu te souviens que au moment de la guerre d'Afghanistan, quand la communauté internationale avait demandé aux Américains des preuves de l'implication d'Oussama Ben Laden et de la responsabilité des talibans, les États-Unis avaient finalement refusé de publier ces preuves et avaient dit qu'elles devaient rester secrètes pour des raisons de sécurité nationale. Ils avaient donc alors montré ces preuves à Tony Blair, le premier ministre britannique, et au général Musharraf, le président pakistanais, qui tous les